Monsieur Moussa Ak Attahir, vous êtes chargé de communication d'une organisation qui s'appelle MNLA, et c'est, si j'ai bien compris, Mouvement National de Libération de l'Azawad.
Ouais, juste.
Et l'Azawad, ça c'est où?
L'Azawad, c'est l'ensemble du territoire qui couvre les trois régions qu'on appelle communément les régions du nord du Mali. Donc, il s'agit des régions de Gao, Tombouctou et Kidal, et avec tout le territoire qui les unit aux différentes frontières, notamment de Tombouctou à la frontière de la Mauritanie, de Kidal à la frontière de l'Algérie, de Gao à la frontière du Burkina Faso. Donc, c'est l'ensemble de ces territoires-là qui s'appelle l'Azawad.
Oui, alors, tout ce territoire se trouve, pour le moment, dans l'état du Mali.
Oui. Oui. Oui, officiellement.
Et veut être libéré. Libéré pourquoi?
On veut que ce territoire soit libéré de plus de 50 ans de colonisation malienne, d'occupation sans aucun intérêt vis-à-vis des communautés et des populations qui habitent ce territoire. Et se libérer également de 51 ans de marginalisation et d'oppression de la part de l'État malien sur les composantes qui habitent l'Azawad.
Et comment ça se fait que ce mouvement apparaît maintenant?
Le mouvement apparaît sous la dénomination du MNLA maintenant, mais ce n'est que un processus, c'est une suite logique à un ensemble, à une série de révolutions et de révoltes qu'ont opéré les Touaregs depuis l'indépendance du Mali en 1960 à nos jours. Donc, ce mouvement est la suite logique des rébellions de 1963, de 1990, de 2006 et jusqu'à celle de 2012.
Oui, c'est toute une série de rébellions qui n'ont abouti à rien, donc?
Oui, c'est des rébellions qui n'ont abouti à rien parce qu'elles ont, il y a eu des accords qui étaient consistants dans la forme, mais c'est des accords que l'État malien n'a jamais réellement accepté, donc il n'a jamais réellement exécuté. Donc ces rébellions ont toutes échoué parce que on a eu confiance à la bonne disponibilité du Mali pour œuvrer dans le sens de la stabilisation du pays, mais on a découvert malheureusement que le Mali a toujours piétiné ses paroles, il n'a jamais tenu sa parole et il a toujours trahi sa parole d'honneur et les accords qu'on a signés avec.
Je lis quelque part que les attaques du MNLA ont commencé avec des attaques contre des bâtiments seulement, pas contre des personnes. Mais ce sont des bâtiments qui sont pour une partie aussi des bâtiments qui profitent quand même à la population.
Les attaques de l'état-major du MNLA, c'est des attaques qui vont à l'encontre des institutions maliennes présentes sur le territoire de l'Azawad et seulement les institutions militaires qui ont été touchées. Nous n'avons jusqu'ici aucun dégât matériel ni humain fait sur des populations civiles ni sur des bâtiments, comme vous le dites, appartenant à une administration civile. Donc la guerre se passe actuellement entre l'armée malienne et les militaires, les combattants du MNLA. Donc on n'a jamais, depuis le déclenchement des hostilités, il n'y a pas eu d'attaque contre des cibles civiles.
Et donc, quand est-ce que ces hostilités ont commencé?
Les vraies attaques ont commencé depuis le 17 janvier. Contre la localité de Menaka.
Ah oui, ça c'est déjà bien au sud, non? C'est pas tellement au nord.
Non, c'est au nord. Menaka, c'est à 300 km de Gao à l'ouest.
Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après?
Après, les attaques ont continué et continuent encore. Il y a plusieurs villes aujourd'hui qui sont sous le contrôle du MNLA, notamment la ville de Menaka, la ville d'Antarambokan, la ville d'Adjolhok, la ville de Tessit. Nous sommes actuellement en train d'encercler la ville de Niafenke et la ville de Kidal est aussi encerclée par nos hommes. Donc nous avons complètement isolé l'armée malienne de l'essentiel du territoire. Aujourd'hui, c'est seules les villes de Tombouctou et de Gao qui ne sont pas en, et de Kidal qui ne sont pas entièrement sous les mains du MNLA. Sinon, toutes les autres casernes militaires et les autres villes de ces trois régions sont entre les mains du MNLA.
Ah bon? Et est-ce que cette situation est un résultat, comme on avait déjà dit il y a quelques mois, de l'influx d'armes dans la région à cause de la guerre en Libye? Est-ce qu'il y a un lien là?
Je ne suis pas d'accord avec ces liens ni cette analyse superficielle du vrai problème de la ZAWAD. Les retours de combattants Touareg de Libye n'est pas la cause de la révolution actuelle. La révolution a commencé un an avant l'arrivée des combattants de Libye et ceux qui sont revenus de Libye ne constituent pas la majorité de nos combattants. Donc il y a des combattants qui servaient sous le drapeau libyen pendant plus de 10 ans, voire 20 ans pour certains, et qui, avec la guerre interne entre Libyens, ils ont décidé de ne pas participer à cette guerre et de partir. Donc, nos combattants sont revenus les combattants revenus de Libye sont revenus à un moment où leur peuple les a fait appel et ils sont venus trouver qu'il y avait déjà d'autres combattants sur le terrain et il y avait un bureau politique du MNLA sur le terrain. Donc, ce n'est pas la crise libyenne qui a créé la révolution, mais c'est vrai que la crise libyenne a quelque part, à travers ces combattants qui sont revenus, contribué à la mise en place de l'état-major militaire.
Mmh. Bon, un des problèmes dont vous avez assez aussi, j'ai lu sur Internet, ce sont les problèmes de sécurité causés par ACMI.
Oui.
Oui, ça c'est un des problèmes que votre gouvernement ne semble pas à résoudre.
Mm-hmm.
Quelle est la raison pour ça, selon vous?
Selon moi, la raison est très claire. L'État malien a collaboré pendant plusieurs années avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et avant le début des attaques du MNLA, il y avait des casernes Al-Qaïda qui étaient situées à moins de 15 km des camps militaires maliens. Et les militaires maliens savaient et connaissaient la position des ACMI, mais ils ne les ont jamais attaqués. Donc nous considérons que le Mali a expressément favorisé l'installation des ACMI sur le territoire de la ZAWAD pour semer la confusion et profiter de la situation pour mieux piétiner les populations locales, pour mieux couvrir son incapacité de gérer le territoire et aussi pour des intérêts parfois égoïstes, pour favoriser les trafics de drogue dans lesquels beaucoup d'officiels maliens sont imprégnés.
Et est-ce que vous faites la même conclusion pour les autres pays où ACMI, donc Al-Qaïda du Sahara, opère, donc aussi pour le Niger et tout ça?
Non, moi je parle du Mali et du comportement des autorités maliennes vis-à-vis des ACMI. Donc je ne maîtrise pas la position des autres pays vis-à-vis des ACMI, mais pour ce qui est du Mali, nous savons désormais que le Mali a sciemment favorisé l'installation des ACMI sur le territoire de la ZAWAD. Et aussi, une des raisons pour lesquelles le Mali a favorisé l'installation des ACMI sur notre territoire, c'est de pouvoir profiter des énormes aides financières que l'Occident donne pour la lutte contre le terrorisme et utiliser ces moyens pour combattre plus les Touaregs que de combattre ACMI.
Ah bon? Donc, si la ZAWAD est indépendante demain, alors vous aurez vous-même ce problème de vous battre contre ACMI.
Mais nous, on n'a jamais accepté et on n'a jamais favorisé l'arrivée des ACMI sur le territoire de la ZAWAD.
Mais non,
on ne nous a pas impliqué ni dans la recherche de solutions contre le terrorisme dans le Sahel, ni dans le combat contre Al-Qaïda au Maghreb.
Je connais la culture touareg et c'est pas exactement la même chose que ce que dit ACMI, surtout sur la position des femmes, disons.
Voilà.
Mais je me demande seulement si vous êtes indépendant, comment est-ce que vous allez... est-ce que vous pensez que vous êtes capable de chasser ACMI de votre territoire?
Nous, d'abord, nous considérons que l'ACMI occupe illégalement notre territoire de la même manière que le Mali occupe illégalement notre territoire.
Donc, Mali et ACMI
occupent illégalement un territoire qui n'est pas le leur et qui doivent immédiatement quitter. Donc, notre position à l'égard de ACMI est identique à celle du Mali. Et si nous obtenons notre indépendance, nous allons participer largement pour la lutte contre la profilération de ces groupes terroristes qui sèment la terreur dans le Sahel, qui freinent le développement de nos régions, qui empêchent aux partenaires au développement de venir mener des activités, qui ont stoppé l'activité touristique dont vit la majorité des populations de la ZAWAD. Donc, nous ferons de la lutte contre ACMI une priorité. Et nous souhaitons mener cette lutte également en collaboration avec tous les pays et toutes les institutions qui veulent travailler dans ce sens et qui luttent contre le terrorisme.
Donc il y aura une coopération quand même aussi avec l'État du Niger ou avec les Touaregs qui sont au Niger, parce que là aussi le tourisme, c'est un revenu très important qui est détruit.
Nous sommes prêts à collaborer avec l'ensemble des pays qui acceptent aujourd'hui qu'il est illégitime, qu'il n'est pas normal d'occuper illégalement un territoire et de marginaliser sa population. Donc la lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire effectivement qu'avec nous. On va devoir travailler avec tous ceux qui s'attellent à la question, mais il faudrait que ce soit des pays qui luttent réellement contre le terrorisme et non des pays qui font semblant et profitent de cette situation pour s'enrichir et pour créer la confusion dans leur pays.
Aujourd'hui, vous êtes à Paris maintenant ?
Oui.
Oui, vous avez étudié à Bruxelles, j'ai vu aussi, chez
nous.
Oui. Et maintenant, vous êtes à Paris et il y a là, dans environ une heure, une manifestation.
Oui.
Et il s'agit de quoi ?
Il s'agit d'un rassemblement de soutien organisé par une association qui s'appelle Tamazra, une association d'Amazères, donc des Berbères d'origine, qui soutiennent la cause et le combat que nous menons aujourd'hui pour la libération de l'Afrique. Et à cette association se sont ajoutées toutes les associations kabyles, berbères, amazères de l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord présents en Europe. Et nous aussi, tous les Touaregs présents en Europe, participeront à ces rassemblements.
Oui. Vous allez aussi dire quelque chose de la situation à Bamako ?
Bien sûr. Nous allons mettre à profit ces rassemblements pour exprimer aux yeux du monde, parce que nous espérons qu'à ces rassemblements seront présents les médias qui n'arrêtent pas de donner parfois des informations erronées sur les combats que nous menons aujourd'hui. Nous espérons aussi lancer un appel à la communauté internationale, lancer un appel aux gouvernants des pays démocratiques, comme ils se disent, donc aux puissances de démocratie telles que la France, telles que la Belgique, telles que les États-Unis, telles que tous les pays qui défendent la démocratie à travers le monde. Nous espérons les lancer un appel et nous espérons que cet appel soit entendu. C'est des peuples qui sont en train de se battre pour leur liberté, pour leur honneur, pour leur dignité. Et il y a un génocide qui est en train de se faire aujourd'hui même au Mali et personne ne dit quelque chose. Nous pensons qu'il y a le droit à l'autodétermination qui est régi par le droit international. Et ce n'est pas parce que les peuples demandent ces droits que ces peuples méritent d'être assassinés, d'être exécutés et d'être meurtris pour cette simple raison.
Donc, pour un peu clarifier pour nos écouteurs, depuis un ou deux mois, donc, il y a des combats au nord du pays.
Oui.
Et ce qui s'est passé à Bamako, et Cathy, qui est juste à côté de Bamako, apparemment, c'est que la famille des militaires qui sont au nord ont commencé à faire une sorte de répression contre les Touaregs qui habitent là, si j'ai bien compris.
Oui, en fait, ce qui s'est passé à Bamako et à Kati est vraiment dommage. Parce que voilà, les Touaregs qui sont restés à Kati, qui sont restés à Bamako, parce qu'ils trouvent qu'ils sont des Maliens, parce qu'ils trouvent qu'ils ont encore espoir à ce que le Mali leur réserve une place et ils sont restés. Ils travaillent tous les jours. C'est des fonctionnaires, c'est des travailleurs commerciaux, c'est des gens qui participent à la vie économique et, professionnelle du Mali. Et ces gens se sont retrouvés brusquement en train d'être chassés comme des du gibier pour leur juste à cause de la couleur de leur peau. Ils n'ont pas une idéologie politique qu'ils ont fait savoir. Ils travaillaient avec l'État malien et voilà que à cause de leur couleur de peau et à cause de l'amalgame entre la couleur et l'engagement des combattants et des MNLA sur le terrain, on est en train de leur porter atteinte gratuitement. Donc vraiment, mais nous savons aussi que ces agissements ont été travaillés longtemps par l'État malien qui a favorisé le discours de la haine, le discours et à l'incitation à la haine raciale et à la haine ethnique. Et c'est ce discours étatique qui s'est exprimé à travers les manifestations de l'autre jour.
Est-ce que vous pensez qu'il y aura une sorte de protection pour eux après les premières émeutes?
Il n'y a aucune protection. Et d'ailleurs, il n'y a plus pratiquement personne. Depuis deux jours, aujourd'hui, il y a plus de 150 véhicules pleins de Touaregs, d'Arabes, de Peuls qui fuient Bamako et qui sont aujourd'hui, au moment où je vous parle, qui sont à la frontière du Burkina Faso. Il y a des centaines d'autres personnes qui sont arrivées entre hier et hier soir à la frontière de la Mauritanie. Pratiquement aujourd'hui, il n'y a plus pratiquement aucun Touareg, ni aucun Arabe, ni aucune personne proche de ces ethniques qui est à Bamako. Tout le monde a fui. Certains ont fui pour se retrouver dans les brousses de Bamako, pour fuir les émeutes. Parce que toute personne qu'on rencontre, c'est tout de suite un lynchage public.
Oui, donc...
L'État n'a prévu aucune protection. Ces marches, c'est des marches de milliers de personnes. On ne peut pas concevoir que dans une capitale aussi grande que Bamako, qu'il y ait une manifestation de ce genre et que l'État ne prévoit pas le minimum de sécurité et le minimum d'encadrement sécuritaire de ces marches. Et nous avons des personnes, des témoins ont constaté des militaires en civil qui participaient aux marches. Donc voilà, il n'y a aucun espoir de protection, au contraire.
Est-ce que vous avez vraiment un espoir réaliste que l'indépendance va vraiment devenir une réalité?
Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui s'est passé à Bamako et à Kati, ne fait qu'aiguiser davantage notre détermination à croire à notre combat. Le Mali nous a montré et continue à nous montrer qu'on n'a pas notre place au Mali. Chaque fois qu'il y a un conflit, c'est les Touaregs qui fuient pour se retrouver dans les pays voisins. Pourquoi autant d'exil? C'est juste pour nous dire qu'ils ne sont pas des Maliens. Et alors, comme on n'est pas des Maliens, qu'on nous accepte qu'on est des Azawadiens et que ces territoires de l'Azawad, où nous pouvons rester sans être inquiétés, où nous pouvons vivre sans être chassés, où nous pouvons nous installer sans être appelés à l'exil, ces territoires, nous les réclamons, nous nous battons pour cela et nous allons nous battre jusqu'au bout pour l'avènement de cette volonté.
Ok, voilà, il est temps d'arrêter. Monsieur Moussa Attahir, merci pour votre temps.
Merci à vous de vous être intéressé à cette question.
À la prochaine.